RFI, bonjour, 16h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris.
Nicolas Brousse.
En marge d'une opération de distribution alimentaire, au moins 31 morts, 176 blessés ce dimanche à Gaza suite à des tirs israéliens selon la défense civile de la bande de Gaza. Elle est surnommée la Dame de Fer du Bangladesh. L'ancienne chef du gouvernement, Sheikh Hasina, se retrouve depuis aujourd'hui jugée par contumace pour la répression sanglante des manifestations qui ont conduit à son départ. L'association des transporteurs aériens met en garde contre la décarbonation de l'aérien qui est en péril en raison des politiques climato-sceptiques, dont celle du président américain. Les footballeurs du PSG sont rentrés à Paris avec la coupe et descendent en ce moment les Champs-Élysées. Dans 10 minutes, nous suivrons la cérémonie avec l'équipe de Mondial Sport. En attendant, les célébrations de la victoire hier soir ont été ternies par des violences, suscitant la polémique sur la scène politique française. Au moins 31 morts donc après des tirs israéliens aux abords d'un centre de distribution d'aide alimentaire géré par GHF, l'organisation récemment mise en place par Israël avec le soutien américain. L'armée israélienne vient d'assurer ne pas avoir tiré sur des civils. Il y a pourtant plusieurs témoignages à Blajounaïdi sur ce qui semble bien être le deuxième incident mortel grave émaillant les opérations de cette entité, par ailleurs fustigée par les organisations humanitaires internationales.
Ils étaient des milliers, dès l'aube, à attendre de quoi manger ce dimanche aux abords de l'un des deux centres de GHF à Rafah dans le sud de Gaza. Certains avaient marché toute la nuit depuis le centre de l'enclave, car les denrées entrent au compte-gouttes depuis le blocus instauré par Israël début mars. Tout à coup, selon des témoins et la défense civile palestinienne, l'armée israélienne a tiré avec ses drones et ses blindés. Plusieurs personnes meurent sur le coup, d'autres périssent après leur transport à l'hôpital. C'est la deuxième fois que des personnes meurent aux abords d'un point de distribution de GHF, une organisation sans expérience dans l'humanitaire. La première fois, c'était lundi dernier. Deux morts et plusieurs dizaines de blessés avaient été rapportés. L'armée israélienne, dans les deux cas, dément les faits rapportés. Ces drames pourraient être évités si l'aide était à nouveau distribuée massivement à Gaza. Mais la perspective de voir signer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'est éloignée hier. La réponse du Hamas à la proposition américaine ayant été jugée inacceptable par Washington.
Dossier suivi par Abla Junaidi. Pour l'Ukraine, l'espoir renaît timidement. Kiev participera demain au pourparlers avec la Russie sous médiation turque à Istanbul, annonce aujourd'hui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. En attendant, Kiev dit avoir été visé par 472 drones russes la nuit dernière, un record depuis le début du conflit. Mais l'Ukraine annonce aussi avoir mené une opération d'ampleur contre l'aviation militaire en Russie, une base en Sibérie orientale à plusieurs milliers de kilomètres du front aurait même été touché. Moscou vient d'ailleurs de confirmer que plusieurs de ses avions de chasse ont pris feu. Comment ont-ils pu se faire surprendre par une attaque venue d'aussi loin? Question posée par Vincent Souriau à Ulrich Bouna, chercheur à l'Institut Open Diplomacy.
Il est possible que ces bases-là, une partie du matériel qui servait à les défendre, ait été envoyée du coup ailleurs, notamment auprès de la frontière ukrainienne. Et d'autre part, il faut bien comprendre que la base de Belaya, c'est 4 à 5 000 kilomètres de la frontière ukrainienne. Donc du coup, il est probable que les opérateurs qui sont situés sur ces bases-là ne sont pas véritablement prêts à recevoir une attaque. Enfin, c'est des bases qui n'ont jamais été attaquées. Effectivement, là, il est probable que ces opérateurs aient eu quelques minutes au maximum pour comprendre qu'il y avait des drones qui arrivaient sur eux, réagir, et il est très probable qu'ils n'étaient absolument pas formés pour le faire. Donc, ils ont été complètement submergés, et on voit qu'effectivement, les drones se baladent librement au-dessus des tarmacs pour s'écraser sur les avions.
La Dame de Fer du Bangladesh, jugée par contumace, le procès de Sheikh Hasina s'est ouvert à Dhaka ce matin. Audience historique, retransmise en direct à la télévision nationale pour celle qui a été une inflexible première ministre bangladaise pendant 15 ans, jusqu'à l'été 2024, où elle avait dû prendre la fuite vers l'Inde suite à des émeutes. La police avait réprimé dans le sang ces manifestations spontanées. Au moins 1400 morts qui valent donc à Sheikh Hasina des poursuites pour crimes contre l'humanité, Vincent.
Le procureur parle d'une attaque coordonnée, généralisée et systématique envers les manifestants. D'après l'accusation, Sheikh Hasina a mobilisé l'ensemble des forces de l'ordre et les milices affiliées à son parti politique pour réprimer le soulèvement. Les enquêteurs s'appuient sur ses appels téléphoniques, sur les témoignages des victimes, mais aussi sur des séquences audio et vidéo, sur les plans de vol des hélicoptères et sur les mouvements de drones utilisés par la police. Leurs conclusions sont accablantes pour l'ancienne chef du gouvernement. Crime de masse, menaces, blessures volontaires, violences envers les femmes et les enfants, incinération sauvage visant à camoufler les preuves, déni d'aide médicale aux blessés. Le tableau dressé par la justice dessine une répression d'une cruauté inouïe au service de Sheracina et de son maintien au pouvoir. L'ex-premier ministre, elle, nie toute implication et dénonce des poursuites politiques. Réfugiée en Inde, elle n'assistera pas à son procès. Le gouvernement indien n'a pas répondu aux demandes d'extradition des autorités bangladaises.
Précision de Vincent Souriot. Au Mexique, les bureaux de vote ont ouvert pour une élection qui est une première mondiale. Près de 100 millions d'électeurs sont en effet invités à choisir les juges du pays, y compris les 9 membres de la Cour suprême. La présidente mexicaine entend ainsi lutter contre la corruption au sein du système judiciaire. Reste à savoir si les foules vont se mobiliser. On prédit plutôt une abstention assez forte. En Pologne, plus que quelques heures pour élire le nouveau chef de l'État. Dans les sondages, les deux finalistes sont au coude à coude. Au centre, le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski. À droite, Karol Nawrocki, soutenu par le PiS du président sortant Duda. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial en Pologne dans le prochain journal. La réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien, IATA, a commencé ce dimanche. Elle se poursuit jusqu'à mardi à New Delhi en Inde. 1700 professionnels du secteur, dont de grands patrons, sont présents et ils mettent en garde. La décarbonation du secteur aérien pourrait chuter en raison des politiques climato-sceptiques, celle de Donald Trump en tête. D'autant plus dommage que les choses avancent en la matière. L'ONG Transport et Environnement France, dont l'objectif est de développer un système de mobilité zéro émission, a publié son classement Travel Smart sur les émissions de CO2 des voyages d'affaires. Et selon ce classement, Igor Strauss, les émissions des grandes entreprises mondiales ont diminué d'un tiers entre 2019 et 2023. Il y a tout de même de grandes disparités.
Ce classement Travel Smart concerne 326 entreprises mondiales. 11 indicateurs sont pris en compte pour aboutir à une note allant de A pour les bons élèves à D pour les mauvais. Ainsi, 21 entreprises ont obtenu un A, mais 242 ont obtenu un C. En France, le Crédit Agricole sort du lot grâce à une politique volontariste de réduction de son empreinte carbone qui favorise les voyages en train. La banque a ainsi baissé ses émissions de 44% entre 2019 et 2023. À l'inverse, plusieurs entreprises affichent de mauvaises performances climatiques, comme le groupe de luxe LVMH, dont les émissions liées au transport ont augmenté de 63% sur la même période. Mais pour les auteurs du classement, le plus inquiétant reste l'absence d'objectifs de réduction des émissions de 25 entreprises mondiales, dont Google, Apple ou Bouygues. À elles seules, ces entreprises émettent annuellement 6,9 millions de tonnes de CO2, l'équivalent de 48 000 allées simples entre Paris et New York, et mettent en péril tous les efforts réalisés jusqu'à présent.
Igor Strauss et la compagnie indienne Indigo annoncent à l'occasion de ce rendez-vous une nouvelle commande ferme de 30 avions gros porteurs Airbus A350. Au prix catalogue, c'est une commande de 9,5 milliards d'euros pour l'avionneur européen. Autant dire donc une victoire. Autre victoire, c'était en football hier, celle hier soir du PSG. Les Parisiens sont rentrés avec la coupe de la Ligue des Champions. Grande parade sur les Champs-Élysées à bord d'un bus à Impérial. Avant d'être reçus par le président français tout à l'heure, les joueurs du PSG termineront la journée chez eux au Parc des Princes pour exhiber leur trophée aux supporters. Ce dimanche donc, gros dispositif policier dans la capitale française. Alors que les festivités hier soir ont été émaillées de débordements et autres violences, et cela fait réagir la classe politique, Raphaël Delvolvé.
Le ministre ne voulait pas se limiter à un bilan chiffré et des mots de soutien aux forces de l'ordre.
On ne peut plus avoir de grandes fêtes sportives sans mobilisation massive de forces de sécurité intérieure.
Avant de réemployer des termes déjà utilisés la veille sur les réseaux sociaux, sur lesquels des images d'affrontements et de pillages ont circulé le soir du match.
Ceux qui ont gâché cette belle fête, ce sont des barbares.
Bruno Retailleau ne se limite pas non plus à son périmètre. Maître de premier flic de France.
Cette fabrique de barbares a été engendrée par une société qui a déconstruit tous les cadres communs. La notion d'autorité, de respect, la notion de hiérarchie.
Il répond également à Jordan Bardella, le leader d'extrême droite, a vu un fiasco et accuse le ministre d'avoir livré Paris aux émeutiers.
Ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une défaillance de la réponse sécuritaire se trompent, comme le Rassemblement national, comme ils trompent, je pense, les Français.
Avant de se projeter vers un futur pas si lointain,
il faudra donc tourner le dos au laxisme. Ce sera le grand débat qui va venir d'ailleurs dans les prochaines années. Refaire des repères et rétablir des limites. Toute société a besoin de limites.
Bruno Retailleau, accessoirement aussi ambitieux chef des LR, pose encore quelques cailloux sur le chemin menant à 2027. Lui qui n'est pour le moment que ministre d'un gouvernement composite et fragile.
Raphaël Delvolvé, tout de suite Mondial Sport. Je vous retrouve juste après pour un prochain journal sur RFI.